Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur les initiatives visant à contrecarrer l'islamophobie. Et ce, à l'occasion de la tenue à New York, le 17 janvier, d'un forum de haut niveau sur la lutte contre la discrimination et la haine envers les musulmans. Parmi les nombreux participants au forum figurait Michael Privot, directeur du Réseau européen contre le racisme, une ONG qui se targue d'être la seule organisation au niveau du continent à faire du plaidoyer pour l'amélioration de l'égalité raciale en Europe. Christina Silvero l'a rencontrée.
Miguel Prévost, pourquoi était-il important d'organiser cet événement contre la discrimination et la haine envers les musulmans ?
Alors, une chose que l'on a notée depuis le tournant du millénaire, en vérité, c'est qu'on avait un discours majoritaire qui, pour toutes sortes de raisons, tendait à dire que l'islamophobie, à savoir ce racisme à l'encontre des personnes musulmanes ou supposées telles, en fait n'existe pas, que c'est une pure construction. Et ce faisant, ces personnes étaient en train de nier l'existence, très concrètement, de l'expérience vécue par des millions de personnes, on peut le dire, en Europe, qui se font insulter sur la rue, qui se font cracher dessus, qui se font taper dessus parfois, etc. Et donc vraiment tout l'enjeu pour nous pendant de longues années, c'était de construire les connaissances, d'apporter des données, du data, pour prouver que ce n'est pas juste un fantasme, que ce n'est pas juste des gens qui sont trop victimisés, qu'effectivement il y a de la violence qui a lieu au travers du hate speech ou bien clairement de la violence concrète ou des discriminations.
Je suis femme, je suis mère, je suis étudiante, je suis de confession musulmane, je suis laïque. Donc il y a des tas de choses qui interviennent. Je suis belge, je suis européenne.
Pour nous, c'était le point important de montrer ça avec de la substance, de la matière, pour qu'on commence à avoir une conversation différente, à savoir prendre ça comme une vraie conversation politique en disant « tiens, il y a peut-être un problème, est-ce qu'on peut investiguer le problème et est-ce qu'on peut à ce moment-là prendre des mesures pour le faire ?» Et donc, c'est pour nous vraiment un des tournants, c'était 2015, avec le premier colloque sur les droits fondamentaux qui a été organisé par la Commission européenne sur l'antisémitisme et le racisme anti-musulman, l'islamophobie. Et cet événement, pour nous, s'inscrit clairement dans cette tendance et de construire les choses non plus au niveau européen, mais au niveau mondial, global, parce qu'on est tous confrontés à cette problématique.
Alors, vous avez parlé de collecte de données. Quelle est l'incidence, justement, de l'islamophobie, de la discrimination, de la haine envers les musulmans en Europe ?
Ce qu'on peut constater avec le data très parcellaire que l'on a, c'est que malgré tout, il y a une augmentation des propos ou des actes à portée islamophobe envers les personnes musulmanes ou supposées-elles. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, il n'y a pas que des musulmans qui souffrent d'islamophobie, mais aussi des personnes que le perpétrateur estime être musulman. Alors, l'impact, c'est un retrait de la société, très très clairement. C'est-à-dire que les gens, quand il s'agit de discrimination, par exemple, à l'emploi, on a pas mal de personnes qui vont se limiter dans ce qu'elles peuvent espérer faire. En particulier, on le voit, les femmes qui sont la première victime en fait de l'islamophobie, 60 à 80% des victimes le sont. Et donc, au lieu de se dire demain, j'ai envie de faire médecine et d'être médecin, on va se contenter d'un bel job, on pourra travailler à partir de la maison. C'est ce genre de choses. Donc vraiment, on est en train de perdre un ensemble de talents qui sont absolument énormes, puisqu'on a des populations qui commencent à être assez conséquentes. Un autre impact, c'est la méfiance qu'il y a entre les communautés musulmanes d'une part et les personnes de la société majoritaire non musulmane d'autre part, et dans les deux sens. À savoir qu'on a l'impression que du côté de la majorité non musulmane, qu'en fait les musulmans refusent de s'intégrer, qu'ils vivent toujours entre eux, etc. Et du côté musulman, on va se dire non, ces gens ne nous aiment pas, ils nous rejettent tout le temps, on ne fera jamais partie de la société, etc. Donc qu'est-ce qu'on fout ici ? Et on a des cas très clairement. On a eu le cas en Belgique par exemple, à la suite des attentats de Paris en janvier 2015, où on a eu un pic de demandes exceptionnelles de personnes qui étaient d'origine marocaine pour renouveler leurs papiers, en se disant, là ça va partir en sucette, il faut qu'on ait un endroit où on peut aller si ça va pas. Donc vraiment, moi je trouve ça très intéressant, parce que c'était vraiment le même discours que l'on tient toujours au sein des communautés juives, en particulier en France, en Belgique et dans d'autres pays, où on a des gens qui disent, mais on peut plus, donc on va devoir retourner en Israël, parce que c'est le seul endroit où on peut exister en tant que ce que nous sommes, etc. Et donc on a vraiment des discours parallèles qui sont dans la société, et ça pour nous c'est vraiment parmi les conséquences de l'islamophobie. Et donc tant qu'on n'aura pas de politique publique, d'encouragement qui lutte concrètement contre cette forme de discrimination, ça va continuer à polariser la société, les fossés vont se creuser. Et puis alors, un des conséquences extrêmes, c'est alors évidemment les personnes qui peuvent rejoindre Daesh ou d'autres mouvements. Et on voit très clairement que Daesh utilise à fond la non-lutte contre l'islamophobie par les pays européens pour dire, vous voyez, qui ne vous aiment pas. Donc c'est chez nous qu'il faut venir et comme ça vous pourrez accomplir votre destin.
Vous parlez de politique publique, de réponses à apporter. Cet événement était justement l'occasion de partager. Quelle est l'approche que vous prenez ?
Alors en Europe, on a eu un modèle pour lequel notre organisation avec d'autres s'est battue. C'est ce qu'on appelle la stratégie européenne pour l'inclusion des Roms, qui est la minorité la plus largement discriminée par tous les standards en Europe. Et donc l'Union européenne a fini par réaliser en 2011 que si on ne mettait pas des mesures cohérentes avec des objectifs pour tous les États membres, dans l'éducation, dans l'accès au logement, à l'emploi, etc., rien ne bougerait. Et donc c'est une grosse machine évidemment qui a été mise en place. Ça prend du temps, mais ça commence tout doucement à délivrer des résultats, à savoir que oui, il y a aussi des pénalités pour les États membres qui ne veulent pas prendre des mesures pour changer les choses et améliorer la situation, l'inclusion sociale des personnes roms. Ils se sont dit, bah, ok, là on a un très bon modèle que l'on pourrait commencer à dupliquer vis-à-vis d'autres formes de racisme, que ce soit l'antisémitisme, l'islamophobie, l'afrophobie, etc. Et donc c'est vraiment pour nous, du point de vue européen, vraiment le cœur de nos demandes, c'est de dire, voilà, voyez que quand vous prenez en tant qu'institution les choses sérieusement et que vous vous mettez des objectifs et des moyens pour y arriver, oui, les choses changent, peut-être lentement, pas aussi vite qu'on le voudrait, mais ça change.
Si le modèle a fait ses preuves ?
Le modèle commence à faire ses preuves. Bon, ça fait maintenant 4 ans, c'est une grosse machine, comme on dit. On ne va pas régler l'inégalité séculaire dont on souffre encore les Roms en un coup de cuillère à peau, ça ne va pas se faire. Mais en tout cas, oui, on voit que dans l'éducation, tout doucement, dans l'emploi, les chiffres commencent à bouger, etc. Donc ça prouve que quand on veut mettre des ressources, avec un plan, ça arrive. Donc nous, on se dit, voilà, on a un bon modèle politique qui est là, c'est pas parfait, il y a des erreurs, enfin, il y a des défauts dedans, il faut l'améliorer, mais en tout cas, on a quelque chose qui montre que ça marche. Donc ça, je pense que c'est en tout cas notre demande principale, voilà, c'est qu'on aille tous ensemble de ce point de vue-là, avec un vrai plan sérieux des actions concrètes, et pas juste dire, ah, le racisme, c'est mal, l'islamophobie, c'est mal, l'antisémitisme, c'est mal, oui, on sait, ça, nos victimes, elles nous le disent tous les jours, maintenant, on fait quoi ? Et c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire dans chaque domaine, et de commencer à se mettre des objectifs beaucoup plus précis.
Vous avez pu puiser dans les idées qui ont été partagées aujourd'hui, les approches ?
Alors bon, c'est toujours très intéressant ces approches-ci parce qu'on a vraiment des gens qui sont un peu partout. Alors bon, sur une journée, c'est évidemment toujours très challenging parce qu'on va rester à un certain niveau de superficialité. Mais je pense que ce qu'on a entendu, par exemple de la part du département de la justice aux États-Unis et du Canada, aussi exactement ce qu'ils font aussi, par exemple ce Canada Muslim History Month, je trouve ça très intéressant, qui montre cette contribution des musulmans au Canada aujourd'hui, contemporain. Je pense que c'est des choses...
Vous pouvez expliquer juste un peu.
Donc si j'ai bien compris, le représentant canadien, c'est qu'on a le Black History par avant, c'est de mettre en valeur l'apport positif des musulmans canadiens à la culture, à la société canadienne, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous, on voit, qui n'est pas mis en avant en Europe. On a essayé de travailler là-dessus aussi très modestement, mais c'est clair qu'avoir, par exemple, un mois, une semaine, où clairement, il va y avoir une focale sur ces choses-là, c'est quelque chose d'absolument important. Alors bon, ce sont des exemples. Aussi, le fait, par exemple, pour le Department of Justice aux États-Unis, qu'ils puissent aussi investiguer si quelque chose n'est pas fait convenablement au niveau national ou local, c'est quelque chose que nous manque, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte en Europe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a une très bonne conversation au niveau européen et ça bug vraiment au niveau national et au niveau local. Et souvent, pour ces affaires-là, on n'a pas de recours. C'est-à-dire que, bon, bah, des institutions européennes vont me dire, bon, bah, oui, non, il y a la Cour européenne de justice, si c'est une matière qui est couverte, et il va falloir attendre que des années et des années et des années qu'il y ait un cas qui fasse son chemin jusque-là. Alors qu'on voudrait plus un pouvoir d'interpellation, peut-être plus direct de la part des autorités européennes pour dire à un État membre, dites, il y a des choses que vous deviez mettre en œuvre, mais vous ne les mettez pas convenablement. En tout cas, vous trahissez ne fût-ce que l'esprit de la loi, par exemple. Et donc là, ce sont des choses qu'on ne voit pas encore et qui seraient intéressantes de mettre en branle. Mais évidemment, on se rend compte que c'est des efforts assez importants.
Par rapport au climat politique actuel que l'on constate en Europe, un peu de repli.
Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement problématique pour nous. L'Union a adopté en l'an 2000 une très bonne législation en matière de lutte contre le racisme et les discriminations connexes pour faire face à la montée, l'élection de Jörg Haider en Autriche à l'époque. Et donc on voit le sursaut démocratique qu'il y a eu. Mais j'ai l'impression après, maintenant, 16 ans après, que c'était un peu le champ du cygne en vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gouvernants qui peuvent dire, on a vu récemment le président de la République tchèque dire qu'il fallait se préparer à un super holocauste contre le peuple tchèque qui va être fait par des terroristes musulmans, et ok, tout va bien. Donc plus personne ne lève même un sourcil par rapport à des déclarations comme ça. Et donc on voit vraiment très concrètement qu'il n'y a plus de courage de mettre en avant et défendre les valeurs fondamentales de l'Union, l'égalité, l'accès pour tous, le progrès social, etc. Et dire ça aujourd'hui, on a l'impression que soit la société civile et même les institutions européennes, qu'on est un peu dans une position de défense de tranchée, quoi. Voilà. On n'essaie même plus de conquérir de nouvelles choses. c'est juste essayer de faire en sorte que ce qu'on a ne soit pas défait.
Justement, l'une des questions qui est ressortie, l'un des points qui est ressorti, c'est d'attirer l'attention et de sensibiliser le public aux initiatives positives, aux contre-exemples justement de discrimination et de haine. Le représentant canadien évoquait des chrétiens et des juifs qui avaient ouvert leurs portes aux musulmans, qui avaient fait l'objet d'une attaque. Alors, est-ce que vous avez des contre-exemples comme ça à citer ou à souligner pour le cas de l'Union européenne en fait?
Oui, oui, ça, on en a, on en collecte. On avait lancé il y a quelques années une initiative qui s'appelait aussi Hidden Talent, Wasted Talent, donc talent caché, talent gâché. Et donc c'était l'idée de montrer tout ce que des personnes migrantes premières ou leurs descendants amènent à la fabrique sociale européenne. Et il y a plein de choses qui sont là.
Je me définis comme une citoyenne européenne. J'ai un peu de mélange de toutes des identités culturelles européennes. Et une de mes identités, une de mes cultures, c'est la culture arabo-musulmane. C'est quelque chose qui est très présent dans ma vie privée en tout cas, et dans mes rapports avec les gens, par rapport à l'éthique, à la philosophie, à la spiritualité.
Alors, c'est important de les mettre en avant, mais je crois que là, on a encore beaucoup à apprendre, parce que j'entends souvent, même si partiellement, que les médias vont plutôt mettre la focale sur les histoires terribles, les catastrophes, etc., et ne pas mettre assez en avant les choses positives qui sont en train de se faire. Et c'est tout à fait vrai, c'est un petit peu un tropisme des médias. Mais en même temps, moi, je remarque aussi qu'il y a plein de bonnes activités qui sont faites au quotidien. Un, les gens ne pensent pas à communiquer à propos de ces idées, et quand elles sont communiquées par les médias, souvent, elles ne sont pas bien communiquées aux médias. Si on a des gens qui veulent faire, par exemple, une association de musulmans, ou une association de jeunes, mettons par exemple, qui irait apporter du réconfort à des personnes qui sont dans un foyer, on fait de l'intergénérationnel, des choses comme ça. Si on dit ça comme ça, je dis, oui, bon, ok. Maintenant, si on prend le même groupe, un groupe de jeunes musulmans ou divers, de toutes origines, a décidé de faire un partenariat avec un foyer pour personnes âgées, pour travailler sur l'intérêt générationnel, etc., on dit, ah oui, ok, c'est beau, allons voir. Et donc là, je pense qu'on a vraiment, au sein de la société civile, vraiment une grosse responsabilité aussi de notre côté, à essayer de mieux communiquer sur les choses qu'on fait, qui sont là au quotidien, qui font que la situation n'est pas aussi terrible qu'elle pourrait être, parce qu'il y a justement tous ces filets d'entraide, parce qu'on a une société civile qui est très vivante, très maillée, même si elle agit beaucoup souvent avec peu de moyens, mais qui ne parvient pas à communiquer effectivement sur ces choses qui sont faites, et donc ça passe complètement en dessous du radar. Et puis, dernier point peut-être, et là je dois saluer en Belgique par exemple, oui, des collègues qui sont journalistes en l'occurrence, c'est le groupe Média Roularta qui a décidé par exemple de fermer tous ses commentaires maintenant sur tous ses articles, parce qu'en fait, ils disent voilà, on n'est pas là pour modérer la haine, on n'en peut plus, on a fait les mais en fait, on se rend compte que c'est des gens qui créent différents profils juste pour aller troller, etc. Et donc là, ils ont pris la décision définitive de former tout leur forum parce que ça n'apporte rien.
Dernière question, la priorité pour l'Union européenne dans ces questions?
Pour nous, c'est vraiment d'encourager, et en tout cas, ça fait une première priorité. Alors, ce serait vraiment la collecte de données. Beaucoup d'États membres refusent de collecter des données sur les crimes de haine, sur les propos haineux, sur les discriminations, etc. En tout cas, en montrant s'il y a la tendance religieuse, ethnique, etc. Pour des raisons qui sont bonnes, mais qui peuvent être contourner légalement pour faire en sorte qu'on ait enfin un data objectif, parce que sinon on est en train de rester un petit peu en l'air comme ça sur beaucoup de choses, et une série d'anecdotes évidemment ne suffit pas et ne convainc pas de la même façon que du data connecté de manière systématique. Et donc là, notre appel, nous depuis des années aux institutions européennes qui ont commencé à nous voir bouger sur les choses, c'est collecter le data, aider les États membres à collecter du data dans l'emploi, l'accès au logement, les systèmes de police, etc., pour qu'on ait enfin cette image, et pas seulement pour la question de l'islamophobie, mais pour toutes les formes de discrimination. Ça comprend aussi l'homophobie, ça comprend aussi évidemment l'afrophobie, etc.
Vous avez parlé d'un premier jet de collecte de données, alors est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, par exemple, si on regarde le côté du contre-terrorisme, par contre, par exemple, un chiffre qui est particulièrement interpellant en matière de profilage ethnique, c'est qu'on a 79% des gardes frontières au niveau européen qui estiment que l'ethnicité, c'est un bon critère pour repérer et arrêter les gens qui pourraient essayer d'entrer de manière irrégulière dans l'Union. L'augmentation du nombre de crimes haineux après le Brexit, on a une 65% d'augmentation contre les musulmans spécifiquement à la suite de la décision du référendum sur le Brexit en Europe. Voilà, donc il pourrait encore en avoir, il y en a qui sont disponibles sur notre site web si ça vous intéresse. Donc ça, c'est un petit peu les derniers chiffres que l'on a et qui sont vraiment assez marquants en termes de cette réalité de l'islamophobie, du racisme anti-musulman qui est dans nos sociétés aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Voilà, fin de ce magazine Escale, magazine d'ONU Info, consacré cette semaine à la lutte contre l'islamophobie. Un magazine comme nos journaux et autres programmes à écouter sur Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.